France Inter.
Un pont qui s'effondre dans le Gard et qui entraîne dans sa chute un camion qui se trouvait dessus.
Ce camion s'est engagé sur le pont au niveau de Chamborigo.
Lorsque ce pont s'est effondré sur une vingtaine de mètres,
le conducteur s'en sort blessé,
sauvé parce que son volant se trouvait à droite.
C'était il y a un an, le 18 mars 2024, un lundi en plein après-midi, un pont de la commune de Chamborigo dans les Cévennes s'effondrait. Un pont qui s'écroule, c'est rare. Il y a eu la catastrophe de Gênes en Italie en 2018, 43 morts dans l'effondrement d'un viaduc autoroutier. Mais depuis, en France, une attention particulière est en principe portée à ces ouvrages avec un programme national pont lancé en 2020 pour recenser, réparer, surveiller ces infrastructures vieillissantes.
On a 35 000 ponts en France qui sont fortement dégradés, c'est-à-dire vraiment atteints dans leur structure. Quand on les rapporte aux 1 million de kilomètres de route en France, il en ressort que tous les 30 km, chaque fois qu'on parcourt 30 km, on franchit un pont très dégradé en France.
Un pont dangereux tous les 30 km, c'est une estimation en réalité, car en France, on ne connaît pas leur nombre exact. 200, 250, 300 000 ponts sur l'ensemble du territoire. Il y a toutes les tailles, toutes les formes, des ponts très fréquentés, des ponts presque oubliés, des ponts essentiels, des ponts secondaires. Mais il y a une constante, ces ponts coûtent cher, très cher, à inspecter, à entretenir, trop cher pour des milliers de communes au budget limité. Et voilà comment nos ponts, si stratégiques pour relier les hommes et les territoires, sont aussi devenus un enjeu de sécurité publique. Ces ponts qui nous dépassent, c'est un reportage de Stéphane Combe qui nous emmène pour commencer dans le sud de la France.
Interception sur France Inter.
Je suis à Chamborigo, dans le département du Gard, dans le parc national des Cévennes. Et dans ce village, au mois de mars 2024, un pont qui enjambe la rivière le Luech s'est écroulé sous les roues d'un camion qui passait au même moment. Alors, pour en savoir un peu plus sur ce terrible événement et sur la construction du nouveau pont, j'ai rendez-vous avec le maire de Chamborigo, Émile Corbier.
Bonjour.
Vous avez rendez-vous avec le maire ?
J'ai rendez-vous avec Émile, monsieur
oui.
Le maire.
Ah, avancez. Voilà.
Il est au téléphone, vous pouvez entrer.
Ah, d'accord. Monsieur le maire.
Je vous donne à ma secrétaire ce courrier que je viens de signer, on y va, hein.
On est en train de longer le mur en pierre de l'ancien pont et on va s'approcher donc de la rivière qui traverse ce village du Gard de Chamborigo.
Hein. Oui.
Rivière. Comment s'appelle
C'est le Luech. Alors, c'est une rivière, on y est tous très attachés parce qu'on a tous appris à nager dans le Luech. On a tous braconné des truites dans le Luech.
Donc là, on est exactement à quelques mètres de l'ancien pont. Voilà, enfin, on voit les structures de l'ancien pont.
Ce mur appartient à l'ancien pont et celui d'en face. Donc tout ça s'était effondré.
Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le maire, au mois de mars 2024
Moi, j'étais chez moi. Et ma femme est arrivée en courant en me disant le pont s'est effondré. J'étais stupéfait. En plus, ce pont, il est haut par rapport à la rivière. Alors c'est vrai qu'il y a eu on a eu des crues importantes qui ont dû pas mal contribuer à l'érosion. Hein. Mais c'était l'angoisse en voyant ce camion, c'est miraculeux. Hein,
oui,
c'est...
alors parce qu'un camion passait sur le pont.
Oui, un petit camion, 13 tonnes, je crois, alors qu'il passe des 45 tonnes. Et j'ai parlé un petit peu à le chauffeur, il m'a dit j'ai vu des vagues se former devant mon. C'était les piles qui commençaient à tomber. Il a freiné, mais trop tard, il a été entraîné. Et il n'a dû sa vie qu'au fait qu'il avait le volant à droite dans son camion, parce que le côté gauche a été écrasé totalement.
J'ai réellement vu la route faire comme un dodan à l'envers d'une dizaine de mètres. Une cuvette. Donc là, j'ai vraiment tout freiné. Et dès que mes roues se sont engagées dans cette descente, là, ça a dû donner la dernière secousse et tout est parti, quoi. Et là, je me suis écrasé en bas. J'ai vu que j'étais vivant, donc j'ai dit c'est bon. Allez, maintenant, il faut sortir, il faut trouver une solution. J'ai essayé par moi-même de me pousser, essayer de pousser le fauteuil. Impossible, j'étais vraiment pris au piège.
À 15 minutes près, on avait le bus qui amène les enfants du collège. qui passait, quoi. Et ça pouvait être un massacre. Hein.
Et c'était un pont en pierre. Hein.
Un pont en pierre qui datait de 1850, et sur lequel passent de nombreux véhicules. Alors là, bon, 3200 véhicules jour, c'est beaucoup, avec beaucoup de camions aussi. Hein. Et que ce soit effondré, on était stupéfait.
Est-ce que vous aviez eu déjà, auparavant, des signaux le pont était peut-être un petit peu fragile ou fragilisé?
Ouais, non. On a eu une dame qui est venue signaler qu'il y avait des morceaux de ciment qui étaient tombés. Quelques mois avant la chute du pont. Et même pas. On l'a signalé, c'est sûr.
Vous l'avez signalé à qui?
Au département, à l'équipement.
Parce que le pont appartient. C'est un pont départemental.
Ce qui nous arrange bien, vu le coût de la construction. Donc on a signalé. Un agent est venu voir, a fait des photos, mais ça ne paraissait pas. Le pont n'était pas ancré dans le rocher. Il était, si j'ai bien compris, posé pratiquement. Donc il n'y avait rien. Il n'y a pas, à mon avis, pas de signe en 7 heures. Nous avons eu des crues depuis quelques années très violentes. Comme on peut le voir, il a les pieds dans l'eau, donc ça a pu participer à l'affaiblir. C'est un pont, je vous dis, qui voit passer des camions de bois, notamment le bois est coupé dans le massif central, il descend et passe par ici, il passe d'énormes camions. C'est des ponts, en 1850, je n'ai pas idée, mais il passait des charrettes de quelques tonnes seulement.
Mais Émile Corbier, en tant que maire de Chambourigaud, qu'est-ce que vous avez fait quand il y a eu l'accident ?
Lorsque je suis arrivé sur les lieux, j'ai appelé les pompiers d'abord. J'ai appelé le sous-préfet, il m'a dit « je suis en réunion à Nîmes, je viens ». J'ai appelé le conseiller départemental qui m'a dit « je suis sur la route de Nîmes, je tourne et je viens ». Le lendemain, il y avait le préfet, il y avait la présidente du conseil départemental. Quelqu'un disait, c'est d'ailleurs le cas je pense, c'est une histoire de 5 millions environ. Et la présidente a dit, ben on y va, de toute façon, voilà. Et je crois qu'elle a dit, c'est le budget d'entretien de nos routes pour l'année, pour le Gard. Mais on y va, on ne peut pas rester sans pont. Là, c'est le préfet qui a dit, on lève des obstacles, on va vite.
Je me trouve au milieu du village de Chambourigaud, avec la départementale qui la traverse, la mairie sur la gauche, avec l'école, et sur la droite, eh bien, des commerçants, notamment la boucherie, un établissement qui aurait été impacté par l'effondrement du pont. Bonjour Emmanuel. Alors vous êtes la bouchère de...
Je suis la femme de Jackie, oui.
La femme du boucher de Chambourigaud.
Voilà, tout à fait.
Alors, je viens vous voir parce que je crois savoir que vous avez été directement impacté en tant que commerçante, et peut-être même également les autres commerçants du village, par l'écroulement de ce pont de Chambourigaud qui passe au-dessus de la rivière Lelouech.
Tout à fait. Alors, pour vous situer la carte à peu près économique de Chambourigaud, nous sommes tous des commerçants qui vivons de la saison estivale. Et sur cette saison estivale, nous la ventilons sur toute l'année. Et la reprise vraiment d'activité se situe au printemps. Et le printemps dernier, le pont s'est écroulé. Donc forcément, la reprise de trésorerie, elle a été quasi nulle pour nous. Et ça impacte...
Pour vous et les autres commerçants.
Nous, quand je dis nous, je parle de nous globalement. Nous et nos collègues. Et donc, on n'a pas eu de reprise de trésorerie. Et on a été aussi impacté parce que notre activité estivale se base surtout sur des campings, des gîtes. Et donc, l'effondrement du pont, forcément, vous vous en doutez, ça a impliqué moins de venues de touristiques, moins de fréquentations touristiques. Et voilà. Oui, on a été très impacté et on a été très seul surtout. Et on est toujours très seul, c'est-à-dire que économiquement, on n'a eu aucun contact avec les personnes en charge des commerçants auprès de la municipalité en charge des commerçants. On n'a vu personne. Personne n'est venu nous demander quelle était notre santé économique. On est seul.
Pourtant, il y a eu une route qui a été construite pour permettre, et un petit pont qui a été construit pour permettre aux habitants du village et même aux alentours de passer au-dessus de la rivière.
Oui, alors avant la construction de ce petit gué qu'on connaît actuellement, il y a eu une déviation mise en place. Ça nous doublait le temps de trajet pour venir travailler. On a alerté même le député qui était à l'époque, M. Salah, pour lui dire que sur cette déviation, il y avait 5 km de zone blanche téléphonique. Donc on empruntait une déviation avec un risque de se retrouver en panne ou avec un accident et ne pouvoir contacter personne. Encore une fois, aucun retour. Voilà, on a dû se débrouiller avec des faits et on fait avec une absence de communication qui est terrible, quoi, et qui amène doucement, mais sûrement, je pense, à la mort économique du village ou à son grand malaise.
Mais le pont est en train d'être reconstruit. Alors, le trafic va reprendre.
Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce qu'on a pu constater, c'est que économiquement parlant, là, pour moi et mes collègues, c'est pire que le confinement. Il faut savoir que quand les gens prennent des habitudes économiques pendant un an, ils ne les retrouvent pas. Quand le pont sera reconstruit, les gens auront aussi pris l'habitude d'aller ailleurs. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'on est un village qu'on traverse, mais qu'on ne fréquente plus.
Les gens ne s'arrêtent plus.
Beaucoup moins. On aurait aimé beaucoup de communication, ne serait-ce qu'un soutien, ne serait-ce que moral, de solidarité, qu'on n'a pas eu.
Bon, bah, mille merci.
Merci à vous. Et merci à vous.
Allez, à bientôt.
Merci.
Merci.
Au revoir. Votre travail.
Merci beaucoup. Au revoir.
À Chambourigo, le pont est reconstruit. Ça aura pris un an. À la grande satisfaction du maire et des habitants, certains devaient faire un énorme détour. Situation très différente à quelques kilomètres, toujours en longeant la rivière du Luèche, dans la commune de Génolac. Un pont détruit, d'autres endommagés, à cause des caprices du climat. Et c'est le maire de Génolac, Guy Chéron, qui va tout nous expliquer.
Alors, par où on passe,
Faut
passer sous la voûte, là.
Il faut passer sous la voûte. Attention à la tête. Hein.
Ah oui, là, parce que c'est pas la tête.
Alors ça, c'est le passage des habitants du versant.
Donc de la commune d'en face.
Les communes d'en face qui sont obligées de passer par ce passage-là pour rejoindre un peu la civilisation.
On est au bord de l'eau. Les arbres sont cassés. Il y a des gros blocs de pierre. Qu'est-ce qui s'est passé ici ?
Eh bien, il s'est passé un événement, l'épisode Cévenol, qui a provoqué tous les dégâts sur les ponts et sur les autres structures, en emportant et des embâcles et des blocs de granit, comme vous pouvez voir, qui font certaines une tonne.
Ah, c'est apocalyptique ce qui s'est passé.
Tout à fait.
Et c'était en 2021.
2021. Ici, il est arrivé une vague d'un mètre 80.
On va aller voir les gens qui... Les personnes qui habitent l'autre côté.
Il a été installé une passerelle qui est submersible, mais c'est la seule solution qui a été trouvée pour pouvoir désenclaver un peu le hameau qui se trouve sur l'autre versant.
Bonjour, Stéphane Combe. Merci de France Pascal. Inter. Bonjour.
Bonjour, Gérard.
Vous vivez donc sur cette rive ?
Oui, nous vivons sur la rive droite. Et nous avons été coupés du monde le 3 octobre 2021, puisque deux ponts ont disparu et nous sommes restés 3 mois coupés du monde, sans aucun moyen pour rejoindre la rive gauche où tout se trouve, les commerces, les médecins, enfin tout, de ce côté-ci il n'y a rien. On avait comme moyen, les cuissardes. On a acheté les cuissardes, quand il n'y avait pas trop d'eau on traversait, on habite un peu plus loin, la rivière avec les cuissardes. Au bout de 3 mois, on nous a installé cette passerelle piétonne. On n'a plus de vie entre guillemets normale. Quand on peut accéder à son domicile, c'est un endroit magnifique. Mais le tout, c'est de pouvoir accéder.
Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit.
Alors après avoir vu les ponts qui sont détruits et les conséquences pour les habitants de l'autre rive, on va maintenant aller voir ceux qui sont endommagés et même très endommagés.
Venez Stéphane, on va passer là, comme ça je vais pouvoir vous montrer les dégâts qui ont été occasionnés par les embâcles sur les piliers.
Alors les embâcles, ce sont des débris qui sont emportés par l'eau, particulièrement lorsqu'il y a des crues, comme c'est le cas ici à Génolac, lors des épisodes Cévenol.
Vous pouvez constater que ces éperons ont été construits justement pour pouvoir dévier les embâcles pour pas qu'ils viennent percuter la culée du pont.
Il est très abîmé. Hein.
Et dégradé par les épisodes Cévenol qui emmènent et des embâcles et des boules de granit qui viennent percuter les structures.
Et malgré tout, Guy, en tant que maire, vous acceptez, parce que je viens de voir une voiture qui vient de passer dessus, vous acceptez que des voitures continuent de rouler sur ce pont?
Oui, tout à fait, parce qu'on n'a pas bien le choix. C'est-à-dire que si jamais on devait interdire la circulation sur cet ouvrage, toutes les personnes qui habitent de la hameau un peu plus loin seraient isolées de l'agglomération de Genolac. C'est un choix. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un problème.
Alors ça, c'est le premier des ponts.
Un des six ponts
qui est en mauvais état.
Ouais.
Celui-ci, il est estimé à quelle... la réparation...
Elle est estimée à 110 000 euros. Voilà le troisième pont des six à réhabiliter. Et comme vous pouvez le constater, c'est un pont qui présente énormément de dangers. C'est un coût de 50 000 euros, ce sera fait en béton. Et celui-là aussi, je ne sais pas comment faire pour le financer dans l'immédiat.
Alors Guy Chiron, six ponts à réparer à Genolac. Au total
2,4 millions. On est à 2,4 millions.
Bon, il pleut pas mal, on va se mettre un petit peu à l'abri. Là, sous la...
Ah oui, sous le bâton.
Oui, parce qu'on est dans les Cévennes, et dans les Cévennes, quand il pleut, il pleut. Hein.
Oui, alors là, c'est pas un épisode Cévenol. Hein. L'épisode Cévenol, c'est un événement très, très compliqué. Au niveau des ponts, les six, on n'arrivera jamais à financer l'ensemble des ponts, parce qu'il restera toujours une charge communale qui va être de 20%. Et si on arrive à avoir 80% de subvention, ce qui est moins sûr. On n'a pas les reins assez solides pour pouvoir financer des sommes pareilles. Tout en sachant qu'on prend le risque... qu'il y a un problème, et bien voilà, ça sera la responsabilité du maire.
Mais les épisodes Cévenol, ils vont se reproduire, ils ne vont pas attendre que vous ayez des subventions.
Mmh. Et oui, on en est conscient, hein. On ne dort pas toutes les nuits, hein. Faut pas croire.
Ça vous travaille, cette affaire ?
Mais bien sûr, qui ne travaillerait pas ? Il me semble pour moi que les ouvrages d'art ne devraient pas être de la compétence communale. C'est impossible, aucune commune n'a les moyens financiers de prendre à sa charge la reconstruction d'un pont. C'est impossible.
Depuis 2020 et le lancement du programme national pont, 40 000 ouvrages ont été recensés et inspectés dans près de 10 000 communes françaises. Si un quart des ponts est en bon état, la moitié a besoin de travaux dans les 5 à 10 ans et le dernier quart dans un délai beaucoup plus bref, voire immédiatement, pour des questions de sécurité. Stéphane Combe nous emmène maintenant dans l'univers de la pathologie des structures. Comme il y a une médecine des hommes, il y a une médecine des ponts, avec des professionnels pour faire des diagnostics et proposer des remèdes. Stéphane Combe est maintenant près de Paris, à Rambouillet, avec Christian Tridon, ancien président du syndicat des travaux publics, auteur surtout d'un livre intitulé « Médecin des ponts ».
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Vous voyez, sur la trottoise, la petite poutre en travers qui est juste en face de nous. Alors, vous voyez dessous, ouais. Là, le béton qui est éclaté.
Oui.
Vous le voyez?
Oui.
Eh bien, ce béton, il a tombé, là. Christian Tridon, je suis ingénieur génie civil. Ça concerne un petit peu tous les ouvrages structurels en béton, en acier, en maçonnerie aussi. Alors, nous sommes dans le département des Yvelines. Nous sommes sous un pont qui enjambe cette départementale, qui grosso modo fait la liaison entre l'autoroute A10 et la ville de Rambouillet. Il est en béton armé.
C'est un petit pont comme on en voit des
milliers. Oui, c'est un petit pont. Il est encastré sur les piles, on voit bien que le tablier est encastré. Et alors, ce pont, qu'est-ce qu'il y a de particulier? On voit des traces blanchâtres partout. Toutes ces traces blanches nous disent que l'acier est en train de corroder.
Il y a des stalactites. Hein, voilà.
Je vous ai amené voir ce pont parce qu'il est assez représentatif du mal qui gangrène la majorité des ponts en France comme ailleurs, qui débouche toujours sur la corrosion des armatures.
La corrosion des armatures du pont. Hein.
Alors en deux mots, c'est pas très compliqué finalement. C'est une réaction électrochimique qui se provoque entre l'oxyde de carbone et la chaux qui est dans le ciment. Et ça va provoquer un champ magnétique à l'intérieur du béton. Il va y avoir une électrolyse qui va se créer entre une anode et une cathode, et là, il va y avoir une corrosion qui va démarrer. Le phénomène de corrosion démarre comme ça.
C'est-à-dire
et
que le fer qui est dans le béton gonfle,
va foisonner, il va se gonfler de volume, et le béton va se fissurer. C'est ce que l'on voit là, toutes ces traces blanchâtres, qui est du calcin, hein, c'est la chaux finalement. Hein. Voilà, on voit ce carbonate qui ressort du béton. Voilà.
À vue d'œil, Christian,
malade.
Il est malade.
Ah oui, ça pour le moins, il est même assez malade. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire sur ce pont? Il aurait fallu déjà bien le protéger vis-à-vis de l'eau, mais il y a déjà un bon moment, et on ne l'a pas fait.
Il est gorgé d'eau. L'ennemi du béton armé,
c'est l'eau.
C'est l'eau.
L'eau est un véhicule qui amène le dioxyde de carbone vers la chaux. Voilà. C'est une réaction qui n'est pas très complexe. Il faut l'empêcher de pénétrer le béton. Alors, l'erreur qu'on a fait pendant longtemps, c'est qu'en voyant ça, le premier réflexe qui arrivait à l'œil du gestionnaire, c'était de faire décaper ces traces blanchâtres et de refaire un enduit par-dessus. Ce qui servait à rien, puisqu'on laissait le mal à l'intérieur. Il faut au contraire laisser ouvert, mais par contre protéger par-dessus pour que l'eau n'y rentre plus. Mais il faut un certain temps pour que le béton s'essore. Il est plein d'eau, donc il faudra peut-être 3 ou 4 ans pour que le béton s'essore. Et quand il sera complètement essoré, là, on pourra le traiter. Mais avant d'arriver à ça, on va commencer à avoir des morceaux de béton qui vont tomber sur les voitures. Ça va commencer comme ça.
À cet instant, aujourd'hui, Christian Tridon, vous qui êtes un spécialiste des ponts et du béton armé, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il est réparable ou il faut le détruire?
Non, il y aurait... La première des choses, si j'étais gestionnaire de ce pont, là, de suite, je lancerais un travail de purge. C'est-à-dire que je mettrais un échafaudage et avec un marteau-piqueur, je ferais tomber tout ce qui veut tomber. Pour éviter que la prochaine fois, avec votre voiture, vous receviez un morceau de béton sur le pare-brise. Ça, c'est la première des choses qu'il faudrait faire. Là, de suite. Il est très bien, ce pont. Sa structure, il n'y a rien à dire sur sa structure. Il a rempli son rôle. Simplement, il n'a pas été protégé. Regardez les stalactites sous les poutres là, latérales. Vous voyez les stalactites, là, on les voit bien ici. Là, hein. Bon. C'est l'exemple de Gênes, en Italie. Le pont de Gênes, les haubans qui retenaient le tablier du pont de Gênes, ce sont des poutres en béton avec des câbles d'enduit à l'intérieur. Et on a vu, bon, comme ce n'était pas protégé, ben ça a cassé.
Derrière les toits, le pilier qui soutient le viaduc s'effondre. Il n'y a plus de pont. L'autoroute est tombée dans le vide. Le dernier bilan des autorités fait état d'au moins 30 morts et de plus d'une dizaine de blessés. Inauguré en 1967, le viaduc autoroutier Morandi, du nom de son concepteur, était à l'époque considéré comme moderne. Avant son effondrement, il faisait l'objet de travaux de rénovation selon la Société italienne des autoroutes.
Je suis Alexis Kalogeropoulos et je suis un radiologue des ponts. Mon travail consiste à connaître l'état de santé des ponts pour pouvoir savoir à quel niveau d'urgence il va falloir les réparer ou au contraire si on peut se permettre de les laisser dans l'état dans lequel ils sont. Donc je fais partie des médecins des ponts et je fais partie d'une des étapes qui permet de réparer les ponts.
Alors là, on est à Albertville, dans le département de l'Isère, et vous êtes avec une espèce de mallette Pélican noire. Hein, c'est une mallette pour les gens qui vont sur des chantiers, sur des tournages.
Voilà.
Et on va aller sur ce pont qui enjambe l'Arlis, cette rivière qui traverse Albertville. Vous allez inspecter ce pont, en fin de compte.
Voilà. Et nous, à la fin, ce qu'on va faire, comme les radiologues, en fait, on va fournir une carte du pont avec les différents objets qu'il y a à l'intérieur et leur état. Et donc, à la fin, on va donner notre avis en disant ce pont, il est plutôt en bonne santé ou il est plutôt dégradé ou il est très dégradé, il va falloir agir urgemment. Et on donne un petit avis médical comme ça sur l'état du pont. Ok, alors on va se mettre par ici et je vais sortir mon appareil, mon équipement, mon géoradar. Et je vais installer une perche qui va me permettre de le faire rouler sur le sol. Ça ressemble à un fer à repasser à roulette, si vous voulez. Donc c'est assez léger. Puis ça se connecte à une tablette qui va permettre d'afficher les images. Et on va pouvoir commencer à regarder les premières images du tablier du pont. Voilà. On voit les armatures à l'intérieur. On voit l'asphalte sur lequel on est en train de marcher. Et on voit... Aussi, s'il y a des petits défauts en fait dans le béton dans lequel les armatures sont englobées en fait. Ce que j'arrive à voir, c'est qu'effectivement c'est un pont qui est déjà âgé et après donner un avis immédiat sur le risque, l'état de dégradation du pont. Il faut faire du travail d'analyse derrière, mais effectivement, on voit qu'il y a une certaine dégradation. Ouais.
Qui sont vos commanditaires ?
Alors, la plupart du temps, ce sont les maîtres d'ouvrage, donc les propriétaires des ponts. Donc, très souvent, ce sont les départements, les régions, les réseaux ferrés de France, donc plutôt pour les trains, différentes institutions publiques ou parapubliques qui ont des ouvrages d'art. Si je peux faire un petit parallèle médical, si moi je suis le radiologue et qu'on est dans une clinique qui s'occupe des ponts, la salle d'attente elle est pleine. Et donc le problème c'est qu'il va falloir faire le tri un peu des patients pour pouvoir arriver à savoir quel patient traiter en premier. Donc notre rôle à nous, c'est justement de savoir à quel point les maladies de ces patients sont graves pour pouvoir agir. Il va falloir aussi agir sur le budget de l'hôpital, on va dire ça comme ça, aider les patients à planifier quand est-ce qu'il va falloir faire les travaux et combien ça va coûter. Et donc c'est extrêmement important de connaître l'état de dégradation des ponts et la vitesse à laquelle ils se dégradent pour pouvoir anticiper en fait le coût de la maintenance. Et le problème qu'on a là, c'est qu'on a un manque d'ingénieurs civils. On a eu des ingénieurs extraordinaires qui ont marqué l'histoire, qui ont fait des parmi les plus beaux ponts au monde. On est la patrie d'Eiffel, de Freycinet, de tous ces ingénieurs qui ont su construire des ponts. Et le problème, c'est que maintenant, on a perdu un petit peu ce savoir-faire pour les réparer. Et on a besoin de développer des nouveaux ingénieurs qui soient capables de réparer les ponts et les faire tenir dans le futur. C'est extrêmement important. Le génie civil est un milieu qui a été moins attractif ces dernières années parce qu'on construit moins de choses neuves. Or, il est en train de se transformer complètement. On est dans le monde de la réparation maintenant dans le génie civil. Et on est par exemple dans le changement des isolations thermiques des bâtiments. Ça, c'est quelque chose qui commence à être intégré. Mais la réparation des ouvrages, c'est quelque chose qui n'est pas encore là. On a besoin de mains, on a besoin de jeunes qui s'intéressent à ça parce que c'est votre problème des 20, 30, 50 prochaines années. Donc, c'est extrêmement important que les jeunes se rendent compte qu'il y a des études très intéressantes à faire là-dedans et il y a des métiers d'avenir qui sont là-dedans.
Alors pour continuer la métaphore médicale, il y a les médecins des ponts, les radiologues des ponts, mais il y a aussi des carnets de santé pour les ponts. Des carnets mis en place par l'État pour aider les collectivités à organiser le diagnostic et la maintenance de leurs ouvrages. Ces carnets sont sous le patronage de l'État dans le cadre du plan National Pont lancé en 2020 et concrètement, cela se traduit par un vaste recensement des ponts en France et l'organisation des travaux ainsi que la mise en œuvre des financements. Ce projet de carnet de pont est piloté par le CEREMA. Alors sous ce nom barbare, c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques de l'environnement, la mobilité et l'aménagement.
Suivez-moi.
Et pour en savoir un peu plus sur ces fameux carnets de pont, j'ai rendez-vous avec David Zambon, le directeur adjoint du CEREMA.
Merci en tout cas de me recevoir.
Non, mais écoutez, avec plaisir. Je suis David Zambon, directeur général adjoint au CEREMA et en charge particulièrement du sujet des infrastructures.
Combien y a-t-il de ponts en France ?
Le nombre exact, il n'est pas connu. Le total, on l'évalue entre 200 et 250 000.
L'État, les communes, les départements, quelle est la répartition ? L'État possède combien de ponts ?
C'est à peu près 20 000 ouvrages. Si on prend les départements, on est à peu près 100 000. Et donc le reste, 120 000, 150 000, ce sont les communes.
Sur les, on va dire, on va pousser la fourchette au maximum, hein, 250 000, sur les 250 000 ponts, il y en a combien qui sont fatigués, en mauvais état, voire dangereux ?
Quand on prend l'état des ponts nationaux ou des ponts départementaux, c'est autour d'une dizaine de pourcents des ouvrages qui ont des problèmes de structure. Pour les plus petites communes, on est arrivé à plus de 25% de ponts en mauvais état avec des problèmes de structure importants, voire très importants. Donc si on considère le taux, moyen de 10 à 15% sur ce patrimoine, on va se dire qu'autour de 20 ou 25 000 ponts qui ont des problèmes de structure, sur lesquels il va falloir intervenir dans les quelques années pour les réparer. Et donc il a été décidé de mettre en place un programme, qu'on a appelé le Programme National Pont, pour proposer aux plus petites communes de faire une opération de recensement. Je suis maire, quelle est la liste de mes ponts ? Dans quel état ils se trouvent ? On lui remet un document qui s'appelle un carnet de santé qui va décrire l'état de son pont. Donc effectivement, ce travail de recensement, il a bénéficié à 15 000 communes, plus de 63 000 ouvrages. C'est un quart de ce patrimoine qui est en mauvais état. Il y en a même 400 de ponts qui ont fait l'objet de mesures de fermeture parce que les questions de sécurité n'étaient pas garanties.
Alors, ça, c'est le recensement, c'est le diagnostic. Et sur un plan concret, pour aider les communes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider?
Alors déjà, dans le carnet de santé, des préconisations, travaux d'urgence ou travaux de long terme. Mais effectivement, je suis un maire d'une petite commune, je reçois mon carnet de santé et ben, je ne sais pas comment agir derrière. On a mis en place un système de conseil qu'on a baptisé SOS Pont, une plateforme numérique, où le maire pose sa question. Et derrière, il y a un agent du CEREMA qui lui répond pour le guider dans toutes les étapes suivantes. J'allais dire un peu le prendre par la main et l'accompagner dans toutes les étapes pour que le résultat final, c'est que le pont soit réparé. Il peut y avoir des mesures, comme c'est écrit dans le carnet de santé, peut-être de limitation de la circulation sur le pont. Il y a un problème de sécurité, est-ce que je le ferme, est-ce que je ne le ferme pas? Et puis bah, l'étape suivante, finale, c'est le plan de financement. Et là, c'est une aide aussi qui a été apportée au maire, puisqu'il y a une enveloppe, un budget nouveau qui a été créé qui est pour le programme national pont travaux. Qui permet
de quelle hauteur
et... Donc c'est une enveloppe pour ces premières années, c'est une amorce hein, de 55 millions qui permet finalement de...
Pour l'ensemble de toutes les communes de France.
Pour l'ensemble de toutes les communes, mais en un an et demi, on a dépensé près de 18 millions d'euros. Et le montant moyen des travaux pour les ponts de ces petites communes, il n'est pas forcément très élevé. Alors il est élevé pour un budget communal, mais c'est autour de 100 à 200 000 euros, le montant global des travaux. Et donc en l'espace d'un an et demi, à peu près, sur cette enveloppe de plus de 50 millions d'euros, on n'est pas loin de 18 millions qui ont été attribués à des collectivités qui ont présenté un programme de travaux et qui ont bénéficié de cette subvention. C'est une partie, 60% maximum des travaux. Et puis, j'allais dire, pour boucler le financement, il peut y avoir aussi les emprunts avec des dispositifs, là aussi, spécifiques pour les ponts.
Pendant longtemps en France, il y a eu un ministère de l'équipement pour s'occuper des infrastructures et notamment des ponts, avec en son sein un corps d'ingénieurs spécialisés formés dans la prestigieuse École des ponts et chaussées, fondée en 1747, et puis sur tout le territoire, des antennes, les fameuses DDE, Direction départementale de l'équipement. Mais depuis 2007, c'est terminé. Fusion avec le ministère de l'écologie et dilution dans un super ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Résultat, plus beaucoup d'attention portée à tous nos ponts et une filière d'excellence qui s'est affaiblie, un peu comme dans le domaine du nucléaire civil. On retrouve Stéphane Combe dans les environs de Nîmes avec une dizaine d'ouvriers occupés à réparer un pont communal.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Donc là on chemine sur la berge du
pont. On est en train de descendre sur une espèce d'escalier.
Un escalier de chantier pour préserver la sécurité de nos ouvriers. Donc là on descend, on arrive au fond du cours d'eau. Donc on a asséché la petite rivière, le petit canal. On l'a asséché en amont, on a fait un barrage. Donc pour pouvoir travailler au sec. Donc là on est au pied de l'ouvrage, donc on peut voir c'est un ouvrage qui fait en pierre maçonnée, à l'ancienne, qui a un ou deux siècles minimum.
Là on a les pieds au niveau du petit ruisseau.
Du cours d'eau, on est au fond du cours d'eau quand il circule normalement.
Mais il est sec.
Et il est sec, on l'a séché pour pouvoir travailler.
Donc, et alors le pont il fait quoi, même pas 1,75 m de haut?
La route passe au-dessus de nous, donc le pont là on y passe à peine debout, dessous, qui fait à peu près 1,50 m, 1,70 m de hauteur. Et on a deux voûtes maçonnées de à peu près 3 mètres de large.
Ça ressemble pas vraiment à un pont tel qu'on l'imagine, hein, qui passe au-dessus des voies ferrées, d'un fleuve ou d'une rivière ou même d'une ville. Mais ce petit pont appartient quand même à la famille des ponts.
Ces ponts-là, on ne les voit pas tellement, mais on en franchit tous les jours, tous les jours. En France, tous les 5 km, on franchit un pont. Mais ils sont souvent dessous et on ne les voit pas quand on passe dessus. C'est pour ça qu'ils sont souvent oubliés. Lionel Lobé. Je suis donc le directeur de deux sociétés, de deux entreprises de réparation d'ouvrages d'art. On a 35 000 ponts en France qui sont fortement dégradés, c'est-à-dire vraiment atteints dans leur structure. Quand on les rapporte aux 1 million de kilomètres de route en France, il en ressort que tous les 30 km, chaque fois qu'on parcourt 30 km, on franchit un pont très dégradé en France.
Ce tout petit pont, il est malade.
Oui.
Qu'est-ce qu'il a comme maladie, ce petit pont, Lionel Lobé?
En fait, donc, il appartient à une commune du Gard. Cette commune a des services techniques qui inspectent leurs ouvrages régulièrement. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait des fissures sur la voûte, qu'il y avait des fissures sous la voûte. Et ce qu'on appelle les tympans, c'est comme la façade, on va dire, hein, la façade devant nous, qui supporte la route en dessus. Cette façade, dont les tympans, se décollent et tombent, et ont tendance à tomber. Le principal ennemi d'un pont, comme toutes les constructions, c'est l'eau. elle crée des fissures au niveau de la route. On peut imaginer le truc en disant le pont s'ouvre en fait, il s'écarte. À la poussée de l'eau qui rentre dans l'ouvrage, il s'écarte. Donc nous on le referme et on lui redonne une cohésion, un pont monobloc en fait. On le rend monobloc.
Et donc la réparation s'effectue avec du béton projeté, c'est-à-dire là il y a une toupie à béton et le béton est envoyé dans un énorme karcher en quelque sorte.
Le béton arrive à 200 km/h sur la paroi, ce qui rend une cohésion et on remplit toutes les cavités.
Quel était le risque s'il n'avait pas été réparé ce petit pont?
Le risque c'est qu'un tympan comme vous voyez là se décolle, tombe et la voûte s'effondre et une voiture tombe. Et un pont coupé, aussi court soit-il, c'est toute une route qui est coupée. Donc c'est une économie des deux côtés qui est coupée, c'est un agriculteur qui a une ferme d'un côté et les terres de l'autre qui ne peut plus travailler. Ça a des grosses conséquences économiques, au-delà du risque mortel.
Ça coûte combien de réparer un pont comme celui-ci?
Là, c'est à peu près 50 000 euros. C'est beaucoup, mais si on attend de le démolir et de le reconstruire, on passe de suite à 2 ou 3 millions.
Lionel Lobé, est-ce que le changement climatique, des étés de plus en plus chauds, des épisodes pluvieux relativement violents, est-ce que ça a une incidence?
Effectivement, on est face à un cocktail explosif. D'une part, on n'a plus de financement, de moins en moins. On a un patrimoine qui se dégrade fortement. On a des maires souvent qui ne connaissent pas la technique et qui ne savent pas qu'il faut les entretenir. Et l'effet nouveau sur ce cocktail explosif, c'est le dérèglement climatique. Par exemple, de la dilatation. Quand on a un pont qui est de plus en plus exposé longtemps, mais à des températures extrêmes, il dilate beaucoup plus. Ensuite, on a des embâcles de plus en plus importants.
Donc des objets. Hein.
Des objets flottants.
Des objets flottants.
Puisqu'on a des crues de plus en plus importantes. Donc ça vient taper de plus en plus. Et un phénomène nouveau également. Là, ce n'est pas le cas. Mais on a beaucoup de petits ponts qui sont fondés sur des pieux bois qui portent l'ouvrage. Quand ils sont immergés, le bois ne bouge pas. Maintenant, avec l'abaissement du niveau d'eau, ces pieux se retrouvent un coup à l'eau, un coup à l'air. Ils pourrissent. Finalement, on a le pont qui part complètement.
Un pont serait endommagé tous les 30 km en France et un manque de fonds pour faire face à ce problème. Je suis maintenant à Paris devant le Sénat dans le 6e arrondissement et je vais retrouver celui qui est à l'origine de la mission d'information sur la sécurité des ponts qui a donné naissance au plan pont. C'est l'effondrement du pont de Gênes en 2018 qui avait déclenché cette prise de conscience en France.
Bonjour.
Bonjour monsieur le sénateur.
On se met là si vous voulez?
Oui.
Je suis Hervé Moret, je suis sénateur de l'Eure, membre du groupe de l'Union Centriste au Sénat.
Monsieur Moret, quelle drôle d'idée de s'intéresser au pont.
C'est une idée qui peut peut-être surprendre, mais qui me paraît tout à fait légitime. On a du mal à intégrer le fait que le pont n'est pas simplement une voirie comme une autre. Les travaux nécessaires représentent un coût. Et donc très souvent, dans les budgets de l'État, les budgets des collectivités locales, quand on cherche l'économie, on dit bah, « tiens, on va retirer 100 000 euros, 200 000 euros sur une route, sur un entretien de pont », parce que ça ne se voit pas et que personne va... Ce n'est pas comme une association à qui vous retirez une subvention, un public qui va souffrir d'une décision. Là, sur l'instant T, sur l'année N, ça n'a pas d'impact. Et malheureusement, très souvent en France, il faut qu'il y ait une catastrophe pour que l'on se dise qu'il faut mettre les moyens sur la table. D'autant plus qu'en matière d'infrastructure, si vous ne mettez pas 1 euro aujourd'hui, quelques années plus tard, vous en mettez 10. Dans le rapport, on préconise notamment et principalement de mettre les moyens nécessaires sur plusieurs années. Donc à la fois pour les ponts de l'État, pour que ces crédits soient augmentés, et ils l'ont été sur les ponts d'État, il faut reconnaître que les crédits ont été augmentés, c'est à peu près 120 millions par an. En revanche, pour les collectivités locales, qui ont beaucoup plus de ponts, puisque les collectivités locales, elles ont à peu près 90% des ponts. Donc on a demandé la création d'un fonds dédié à hauteur de 120 millions par an pour que les collectivités locales soient aidées par l'État pour remettre en état leurs ponts. Mais c'est très insuffisant, puisque là où dans notre rapport on demandait en 2020 120 millions par an, on a réussi depuis 2020 à avoir à peine 100 millions. Donc, et on est en 2025. Notre sentiment, c'est qu'il faut revoir globalement le financement de toutes les infrastructures. Pas uniquement les ponts. On a des infrastructures qui sont en mauvais état. Donc on a un retard du fait de sous-investissement pendant des décennies qu'on n'arrivera pas à combler. Ce qu'on a suggéré récemment, lors de travaux qu'on a rendus, c'est qu'à l'avenir, lorsque les concessions d'autoroutes qui sont aujourd'hui en application et qui viennent à échéance à la fin de cette décennie, c'est-à-dire à partir de 2030, 2030, qu'on renégocie les contrats avec les sociétés d'autoroutes pour qu'une partie du péage autoroutier bénéficie à l'ensemble du financement des infrastructures. Tout le problème en France, c'est qu'on privilégie toujours les nouvelles infrastructures, qui sont peut-être plus valorisantes en termes de communication ou autre, et cela se fait évidemment au détriment de l'entretien. Je fais encore une comparaison avec une maison. Si vous avez votre maison dont vous ne vous souciez pas, puis que vous faites un agrandissement, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, déjà commencer par consolider ce qu'on a. Mais ça, on ne sait pas du tout le faire en France en matière d'infrastructure.
Les ponts de Paris comme je les aime. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette. Hôtel de Courondelle, où l'on ne paie pas cher, parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris.
Pour terminer ce reportage, je me trouve à Paris, dans le 16e arrondissement, sur la rive droite, le long de la Seine, devant le pont Mirabeau, l'un des plus beaux ponts de Paris, avec le pont Alexandre III. Le pont Mirabeau, mis en valeur par le célèbre poème de Guillaume Apollinaire, écrit en 1912. Et c'est devant ce pont que j'ai rendez-vous avec l'un des grands spécialistes des ouvrages d'art.
Je suis Bertrand Lemoine, je suis ingénieur, c'est ingénieur des ponts aussi de formation et architecte également. Et puis historien aussi des grandes structures, des grands ouvrages et en particulier des ouvrages d'art.
Alors Bertrand Lemoine, vous m'avez donné rendez-vous devant le pont Mirabeau. Pourquoi ce pont ?
Le pont Mirabeau, il est particulièrement élégant. Ça fait partie de la famille des ponts qui ont été construits à l'extrême fin du 19e siècle, avec le pont Alexandre III également, bien sûr, avec le pont de Pierre Hachem. Alors, ce sont des ponts métalliques en acier, mais ce sont deux béquilles équilibrées sur les deux piles et qui viennent se rejoindre, deux fléaux qui viennent se rejoindre au sommet, qui forment une ligne très, très tendue, très, très élégante. Voilà un des ponts construits par un ingénieur qui s'appelait Jean Rézal, grand ingénieur, un peu méconnu malheureusement, mais qui à la fin du XIXe siècle a doté la France de magnifiques ouvrages. Et donc ces ponts ont une valeur avant tout d'usage fonctionnel pour relier deux rives et pour franchir un obstacle. Eh bien on a petit à petit pris conscience que ces ponts faisaient aussi partie de notre patrimoine bâti, notre patrimoine architectural, qui peuvent être regardés comme des œuvres à part entière, et qui construisent aussi des paysages beaucoup plus intéressants parfois qu'un paysage purement naturel. Le pont vient tout d'un coup apporter une sorte d'événement dans le paysage, le qualifier. En tous les cas, où on voit, je dirais, la main de l'homme, en tous les cas, les prouesses que l'homme est capable d'assurer. On passe peut-être tous les jours sur un pont sans même s'en apercevoir, parce que justement les ponts sont là pour assurer une certaine continuité des réseaux. Ils matérialisent en quelque sorte le lien. Eh bien, on a cette idée que le pont vient concrétiser, vient assurer, et on voit qu'il nécessite aussi une réflexion, un investissement de conception, un investissement technique. C'est toujours un domaine qui est en pointe sur le domaine des matériaux, sur le domaine du calcul, sur le domaine de la mise en œuvre, parce qu'on est justement parfois confronté à des coupures très très grandes. Le plus grand pont du monde, il franchit d'un seul bond 2 km entre les piles. Donc on a vraiment avec les ponts cette dimension d'exploit, et l'effondrement d'un pont est toujours un événement très marquant, comme un accident de chemin de fer, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, tout simplement. Et donc, tout d'un coup, on s'aperçoit, ça nous rappelle notre propre fragilité, certes, mais il nous renvoie au côté peut-être éphémère des choses et la nécessité, en tous les cas, pour les ponts, d'être soigneusement surveillés, entretenus, maintenus, pour qu'ils puissent durer, ou être remplacés s'il n'est pas possible de le faire. Mais justement, ce remplacement pose parfois la question de la pérennité du patrimoine qu'il représente.
Alors ce pont Mirabeau qui passe au-dessus de la Seine entre le 16e arrondissement et le 15e, Guillaume Apollinaire en 1912, il en a fait un poème sur l'amour.
C'est une belle métaphore bergère au Tour Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin. Donc il y a cette belle métaphore d'Apollinaire qui qui renvoie, à mon avis, chez Apollinaire, d'une part, à une image de modernité. Donc il y a cette, une puissance, au fond, d'évocation dans le pont, qui est très forte et qui, justement, donne à cet ouvrage fonctionnel, on va dire, qu'on pourrait réduire à une dimension fonctionnelle, toute sa dimension symbolique, voire poétique.
Ces ponts qui nous dépassent, un reportage de Stéphane Combe. Réalisation Maria Pasquet, mixage Bruno Mourlan, attaché de production Martine Messonnier. Pour réécouter cette émission et toutes les autres, c'est facile, abonnez-vous au podcast d'Interception via l'application du groupe Radio France.